RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et la une ce matin, Joseph Kabila de retour aux affaires publiques après être rentré en RDC. L'ancien président a reçu hier des responsables religieux pour consultation. Le nouveau patron de la BAD, la Banque africaine de développement, connaît en effet son nouveau chef. C'est le Mauritanien Sidi Ould Tah qui a été élu hier. Il a déjà fixé son cap, on vous le présentera. La politique camerounaise et la présidentielle d'octobre qui se prépare avec une possible candidature pour Maurice Kamto sous les couleurs de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes. On vous expliquera tout. Une affaire sordide qui provoque l'indignation en Afrique du Sud. Une mère condamnée à la prison à perpétuité pour traite d'êtres humains et enlèvement. Elle a vendu sa propre fille de 6 ans. Et puis les hommages à Arend Boupenza au Gabon. Le footballeur décédé le mois passé à 28 ans après une chute de son immeuble de 11 étages en Chine. Une cérémonie était organisée à Libreville avant son émunation aujourd'hui. Quelques jours après être rentré au pays, l'ex-président de RDC, Joseph Kabila, a donc débuté des consultations. Hier, dans l'une de ses résidences de Goma, la capitale du Nord Kivu, je vous le disais, il a reçu en entretien des représentants de confessions religieuses. Compte rendu de ses échanges avec Patient Ligodi.
C'est à Kinyogoté, au bord du lac Kivu, à l'ouest de Goma, dans l'une de ses résidences, que Joseph Kabila a reçu les religieux. Tête rasée, moustache soignée, costume sombre, l'ancien président s'est montré peu bavard, fidèle à son habitude. Pendant environ 50 minutes, il a échangé avec ses invités, musulmans, membres des églises de réveil, représentants de l'armée du salut, orthodoxes, protestants et d'autres encore. Pasteur Joël Amourani, président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, a conduit la délégation.
L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays.
Selon le pasteur Joël Amourani, Joseph Kabila n'a pas dit qu'il prenait la tête d'une lutte armée. Les religieux lui ont même proposé un rôle plus neutre.
Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne, parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que lui ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays et ce même talent existe encore à lui pour que, qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir.
D'après l'équipe de Joseph Kabila, d'autres consultations sont prévues dès ce vendredi. Une feuille de route sera établie pour la suite et une conférence de presse est également annoncé.
Patient Ligodi, la RDC ou l'Assemblée nationale autorise par ailleurs l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Décision prise en plénière hier sur sollicitation du procureur général qui soupçonne Constant Mutamba de tentative de détournement de fonds dans un projet de construction de prison à Kisangani, évalué à quelque 39 millions de dollars. Projet pour lequel 20 millions ont déjà été décaissés sans l'aval de la primature. Une commission spéciale et temporaire a donc été mise en place la semaine dernière à l'Assemblée. C'est elle qui a rendu son rapport hier avant que les parlementaires ne donnent leur feu vert à la justice. Un autre homme politique congolais dans le viseur de la justice, le député Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, visé lui par une enquête pour propagation de fausses rumeurs et divulgation de secrets d'État. Après une interview donnée début mai dans laquelle il dénonçait une gabegie financière, Nicolas Kazadi affirmait en substance que l'argent destiné au projet arrive bel et bien mais qu'il est ensuite partagé. Une commission d'enquête a été mise en place là aussi, elle devrait rendre son rapport la semaine prochaine. Il prend donc les rênes de la Banque africaine de développement. Sidi Ould Tah a été élu hier, ex-ministre de l'économie de Mauritanie, qui prendra ses fonctions le 1er septembre. En trois tours de scrutin, il a remporté 76,18% des voix devant le Zambien Samuel Munzele Membo, qui a recueilli lui un peu plus de 20%. Et Sidi Ould Tah a déjà fixé sa priorité pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Il souhaite dans un premier temps rencontrer les équipes de la BAD ainsi que les représentants des actionnaires et de la société civile pour mieux cerner leurs attentes, Julien Clémenceau, et mieux y répondre, dit-il.
Si globalement la banque fonctionne bien, son efficacité peut largement être améliorée. D'abord, en apaisant les tensions. Son prédécesseur, le Nigérian Akinwumi Adesina, pouvait être clivant. La banque doit aussi être plus agile. Et cela passe d'abord par l'accélération du décaissement des fonds pour les projets. L'étude de financement prend parfois plusieurs années. L'autre priorité absolue, celle-là, ce sera d'augmenter la mobilisation des ressources. La Banque africaine de développement investit environ 10 milliards de dollars par an, mais c'est loin d'être assez. Et là, il va falloir en plus compter avec un possible désengagement américain. Dans le projet budgétaire 2026 présenté par l'administration Trump, ce sont 550 millions de dollars prévus pour le Fonds africain de développement de la BAD qui ont été annulés. Peut-être que la solution viendra des États du Golfe. C'est ce que le Mauritanien, qui avant dirigeait la Banque arabe pour le développement en Afrique, a plus ou moins promis.
Les explications de Julien Clémenceau. La guerre au Soudan qui se poursuit avec de nouvelles frappes menées par les paramilitaires des forces de soutien rapide sur la ville d'El Obeid dans l'état du Kordofan. Des hôpitaux seraient touchés selon l'armée soudanaise et des témoins qui rapportent cette information. L'armée du général Al-Bourhan qui affirmait justement que les paramilitaires ont réalisé des avancées dans l'état de Kordofan. Et dans ce contexte de guerre qui se poursuit au Soudan. Notons également cette alerte sanitaire sur une épidémie de choléra qui a fait au moins 70 morts en l'espace de 2 jours dans la capitale Khartoum. Un congrès à présent qui se prépare sur la scène politique du Cameroun, celui de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes. Congrès prévu demain pour désigner un candidat en vue de la présidentielle qui est prévue en octobre prochain. Et une rumeur court déjà en bruit de fond. Cette rumeur, c'est que Maurice Kamto, souvent présenté comme le chef de file de l'opposition, pourrait être investi, alors qu'il a déjà été investi par le MRC, son propre parti. Mais cette candidature sous la bannière du MRC est menacée d'invalidation, alors certains y voient un possible tour de passe-passe. À Yaoundé, précision de Polycarpe Samba.
Le député Pierre Kouémoué, président de l'UMS, annonce que le candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre devra passer par le tamis d'une primaire en interne. Les candidats doivent être des militants de l'UMS, mais pas que. Des candidatures jusqu'ici externes au parti pourraient bien arriver.
Il y a d'autres ouvertures à d'autres candidats qui peuvent adhérer au parti. On peut recevoir à tout moment un candidat qui remplit cette condition. Et la seule condition, d'ailleurs qui n'est pas contraignante, c'est adhérer au parti. C'est le préalable.
Cette petite ouverture serait-elle alors un petit passage étroit aménagé par l'UMS pour accueillir la candidature de Maurice Kamto? Pierre Kouémou admet au minimum des discussions avec le leader du MRC dans le cadre de la plateforme des partis de l'opposition qui travaille à une réforme consensuelle du code électoral.
Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Le Congrès est souverain. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le bien-être des populations. Nous ne devons pas rester fermés. Maurice Kamto est sur une plateforme avec nous. Donc, je ne peux pas vous dire que nous sommes des incollables. Nous sommes dans une plateforme pour la révision du code électoral depuis 4 ans.
La direction du MRC est quant à elle discrète sur cette question, mais au-delà de la candidature de Maurice Kamto, Pierre Kouémou avance que le vrai défi pour l'opposition reste de trouver en son sein une candidature consensuelle. Celle-ci reste possible, affirme-t-il, notamment après la publication de la liste des candidats définitifs que validera le Conseil constitutionnel. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Un lourd bilan au Nigeria. Plus de 10 000 personnes tuées en 2 ans. C'est le constat de l'ONG Amnesty International dans un rapport publié hier, 2 ans tout juste après l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu. Et dans cette situation de sécuritaire, 2 états du centre du pays concentrent la majorité des victimes. Plus de 6 800 morts dans le seul état de Benue, plus de 2 600 dans celui du plateau. Le Nigeria, qui fait par ailleurs face à des inondations qui ont frappé mercredi soir la ville de Mokwa dans l'état du Niger. Au moins 25 morts et 10 disparus selon les secours qui restent à pied d'œuvre. Au total, plus de 50 maisons ont été emportées. Une mère condamnée à la prison à perpétuité pour traite d'êtres humains et enlèvement en Afrique du Sud. Elle a vendu sa propre fille de 6 ans. L'affaire soulève l'indignation. Cette jeune fille a été vendue à des fins d'esclavage. Elle reste introuvable aujourd'hui depuis sa vente l'an passé. Et sa mère, Kelly Smith, vient donc d'être condamnée. Mais hasard du calendrier, cette décision de justice marque aussi le premier jour de la semaine de la protection de l'enfance en Afrique du Sud. Correspondance Valentin Hugues.
La protection des enfants est la responsabilité de tous, déclare le parquet sud-africain une fois le verdict prononcé. Mais la perpétuité ne ramènera pas ma petite fille, disparue depuis plus d'un an, martèle la grand-mère de Jocelyn Smith. Pour beaucoup, cette affaire illustre surtout un système qui échoue à protéger ses enfants. Même si certaines lois prometteuses de protection de l'enfance ont accompagné l'avènement de la démocratie il y a plus de 30 ans, les services de protection sont surchargés, souvent sous-financés, sans oublier le manque de suivi des parents en matière de santé mentale. Résultat, les chiffres sont alarmants. trois meurtres d'enfants chaque jour et une disparition toutes les 5 heures. Chaque procès réveille alors ce besoin urgent de réformer l'aide à l'enfance dans le pays. La Commission des droits humains d'Afrique du Sud demande par exemple une meilleure application des peines, la mise en place plus sérieuse d'un registre des délinquants sexuels pour les empêcher de travailler au contact des plus jeunes et une prise de conscience de l'ensemble de la société pour briser le cycle de la violence et mettre fin à ce fléau. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le temps des hommages hier au Gabon, un mois et demi après le décès du footballeur Aaron Boupenza, mort à 28 ans dans la chute du 11e étage de son immeuble en Chine où il évoluait. Un hommage national lui était rendu hier au pays, cérémonie organisée au Palais des Sports de Libreville pour celui qui a porté à 35 reprises le maillot de la sélection nationale pour laquelle il a inscrit 8 buts au total. Un joueur dont la mémoire est unanimement saluée. Reportage Yves-Laurent Goma.
La médaille d'officier dans l'ordre du mérite gabonais est épinglée sous le drapeau vert jaune bleu qui couvre le cercueil. Aaron Boupenza vient d'être décoré à titre posthume. L'émotion est à son comble. Dans l'assistance, M. Fouti, ancien international gabonais, venu de Mouila, à 450 km de Libreville.
J'ai joué avec son papa et ses oncles. C'est vraiment mon fils. Je suis très triste par rapport à ça.
La mobilisation du gouvernement pour cet honneur dû à cette vedette qui a porté haut les couleurs nationales fait chaud au cœur des Gabonais.
C'est un hommage mérité. Ça reste un bel hommage avec la présence des plus hautes autorités.
Aujourd'hui, la nation nous rend hommage. Je crois que c'est mérité par rapport à ses prouesses de footballeur.
Au-delà de cette reconnaissance nationale, les proches et amis du défunt restent inconsolables.
C'est triste, sachant qu'il avait la joie de vivre. Et il savait transmettre ça autour de lui. Du coup, vraiment, jusqu'à là, on n'y croit pas. C'est vraiment triste. Ça fait vraiment mal.
Aaron Boupenza sera inhumé ce vendredi dans un mausolée privé, proche du stade de l'Amitié de Libreville, où il s'est illustré par son talent. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Et c'est donc à Libreville que nous refermons ce journal. Je vous rappelle l'actu à retrouver en tout temps, en tout lieu sur internet, rfi.fr et sur nos applications mobiles. Restez avec nous, bien sûr, notre matinale continue. Vous retrouvez Julien Coquelleroy.